Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans présents.
Sud Radio CCA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission consacrée aux talents français. Comme vous le savez, chaque dimanche, je vous fais découvrir des entrepreneurs qui regorgent d'idées innovantes, originales. Alors, ça ne vous a pas échappé, hein, les cours à domicile, les séances de fitness, de yoga, de sport explosent. Les Français y prennent goût à ces cours en ligne qui ont débuté pendant le confinement. Et nous sommes bien évidemment en pleine pandémie, donc voilà, l'activité des personnes est limitée. Beaucoup cherchent à compenser en adoptant justement ces routines de sport à domicile. Cette augmentation, elle se mesure, une explosion des ventes d'articles de sport, de fitness en particulier, ou encore les téléchargements d'applications extrêmement nombreuses et variées. Tout à l'heure, dans notre France qui innove, justement, on vous fera découvrir un accessoire pour téléphone qui rencontre un franc succès, une pochette magnétique détachable. Ça paraît simple, mais ça a été breveté. Et vous verrez que c'est vraiment très, très pratique. On en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une jeune marque française éco-responsable et 100% féminine créée en 2017 et qui a su s'imposer dans le monde du fitness, les Poulettes Fitness.
Sud Radio CSA La France, Nathalie Schrengerma.
Les Poulettes Fitness qui doivent leur naissance à deux fondatrices, Amélie et Roxane. Et nous sommes en ligne avec Roxane Suté. Bonjour Roxane.
Bonjour Nathalie, bonjour Sud Radio.
Alors vous êtes toutes jeunes, toutes les deux, une vingtaine d'années, vous êtes rencontrées sur les bancs de l'école et vous avez donc eu cette très très belle idée du concept, les Poulettes Fitness. Déjà tout est dit dans le titre, hein, dans le nom de la marque.
Oui, tout à fait. C'était notre surnom aussi à Amélie et moi. Donc, on voulait que ça nous représente également dans la marque.
Alors, racontez-nous justement comment vous est venue l'idée de cette marque, les Poulettes Fitness, et surtout en quoi elle se distingue de ce que l'on peut trouver dans le monde du fitness, du sport, en termes de tenue.
En fait, avec Amélie, on est plutôt sportive, également bonne vivante, et on aime bien la mode également. Et en fait, on trouvait qu'on avait un petit peu de mal à trouver dans les grandes marques de sport déjà existantes des vêtements de sport un petit peu originaux avec des motifs et surtout des marques de sport dans lesquelles on pouvait se représenter, s'identifier. Et également très peu de marques de vêtements avec une notion un peu éco-responsable, avec une fabrication locale ou des matières recyclées. Et c'est comme ça, en fait, avec Amélie, qu'on a eu l'idée de créer notre propre marque de vêtements.
Parce que c'est vrai que vos vêtements sont très colorés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. On n'est pas forcément dans du bleu marine, dans du noir, dans des couleurs unies. Ou vraiment, c'est comme si les tenues de sport, finalement, pouvaient être autant à la mode, en fait, hein, avec des modèles très, très originaux que n'importe quel habit.
Oui, exactement. En fait, on avait justement un peu l'impression que les vêtements de sport étaient un peu en retard en termes de tendance de mode. On retrouve la mode de partout, dans les maillots de bain, dans la lingerie, les vêtements, le prêt-à-porter. Et en fait, les vêtements de sport ont souvent ces codes un petit peu ou masculins ou un petit peu sobres. On retrouve quand même énormément de couleurs sombres dans les vêtements de sport. Nous, on a voulu donner un petit peu plus de bonne humeur, de couleurs dans les vêtements de sport pour que la pratique sportive soit aussi un bon moment, un moment convivial et qu'on se sente bien dans ses vêtements de sport. Et ça passe aussi par une tenue plus colorée, plus gaie.
Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas obligé d'avoir une tenue de sportif de haut niveau, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce côté amateurisme aussi. Si voilà, on aime faire du sport, mais comme vous le disiez, vous deux, vous aimez aussi bien, vous êtes des épicuriennes et à côté de ça, vous aimez faire votre sport. Mais il y a une manière un peu de décomplexer un petit peu la façon de faire du sport à travers ces tenues. Alors, je parlais de messages assez étonnants, assez drôles, assez, on va dire, impertinents. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de ces petits messages qu'il y a sous vos tenues?
Tout à fait. Par exemple, notre message un peu phare qui représente vraiment l'ADN de la marque, c'est Abdo et Morito. On veut vraiment montrer qu'on peut faire des abdos, être sportive et pour autant profiter des plaisirs de la vie et pas toujours se prendre la tête et voir le sport comme la performance, l'excellence, mais aussi un bon moment pour se faire plaisir sans oublier d'avoir des plaisirs simples de la vie, partager un mojito entre copines ou une séance de sport. C'est vraiment le côté plaisir, sport-plaisir, mais tout en ayant une tenue vraiment technique. On a voulu quand même proposer des vêtements un petit peu décalés, originaux, mais avec une technicité, une qualité toujours très importante.
Alors justement, au niveau de la fabrication de vos tenues, le tissu provient donc de Bourgoin-Jallieu, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc c'est dans la région lyonnaise, d'où en fait on est native avec Amélie, que provient donc notre tissu, qui est un tissu très technique, qui permet une bonne évacuation de la transpiration, un tissu respirant et aussi gainant, ce qui est aussi très agréable quand on a une tenue de sport qui gaine, qui est compressive. Ça permet vraiment de se sentir à l'aise et en plus de mieux récupérer après l'effort. Donc ça, c'est vraiment pour le tissu. Et après, c'est confectionné et imprimé, donc tous nos motifs, en fait on a des vêtements avec beaucoup de motifs qu'on réalise nous-mêmes à la main et qui sont imprimés plutôt dans le nord, donc
à Lille.
Vers Cholet. On a d'autres produits qui sont faits aussi à Lille, mais tout ce qui va être confection de nos leggings, brassières, c'est plutôt du côté de Cholet.
Alors ça, c'est bien de le préciser, parce que vraiment, vous avez fait l'effort également d'être dans une fabrication made in France, ce qui impose, j'imagine, une certaine gamme de prix, mais qui reste raisonnable. Comment vous avez fait ? C'est-à-dire, comment vous avez réussi à trouver votre modèle économique ? Racontez-nous.
Alors, on a fait déjà beaucoup de recherches parce que c'est pas évident de trouver des fournisseurs, surtout dans des produits vraiment techniques made in France, parce qu'il y a, il y a peu d'offres, du coup, peu de fournisseurs. Mais on a réussi à trouver des ateliers avec lesquels on travaille maintenant depuis 3 ans. On essaye de proposer un prix vraiment juste. On veut pas être dans des prix excessifs parce qu'on veut rester quand même accessible au plus grand nombre. Donc, on va essayer de... Pour compenser, on va pas dépenser des énormes sommes en communication. On va essayer plutôt de faire un peu par nous-mêmes, de se développer également plutôt avec des ambassadrices de marque. On va pas, par exemple, utiliser beaucoup des grandes sommes d'argent dans le marketing, la communication avec des influenceuses.
Vous avez une très très bonne idée justement. Vous parlez d'ambassadrices. Vous avez envie justement que toutes les femmes représentent en fait cette marque. Ouais. Non pas faire appel qu'à des mannequins qui font taille 38, enfin même pas taille 36, ouais. Mais vraiment avoir tous les profils possibles, parce que des personnes qui représentent la France.
C'est exactement ça. En fait, on utilise par exemple toujours des photos de nos clientes sur notre site internet, dans notre communication. Nos shootings sont toujours réalisés avec nos clientes et nos ambassadrices en fait de marque sont nos clientes. Ouais. On souhaite vraiment que toutes les femmes puissent se représenter vraiment dans notre marque et s'identifier. Et c'est vrai que on trouvait que beaucoup de marques avaient tendance à véhiculer justement une image un petit peu de fitness girl taille 34-36 qui ne représente pas vraiment en fait la réalité des femmes actuelles. Et c'est important pour nous que vraiment toutes les femmes, peu importe leur morphologie, leur niveau sportif, puissent s'identifier aux poulettes et puissent se dire moi je me vois bien dans cette marque, j'arrive bien à me représenter. Ça permet aussi de plus s'accepter et de ne pas avoir l'impression de se comparer en permanence avec des standards de beauté qui sont un petit peu irréalistes.
Oui, et souvent retravaillés sur Photoshop.
Oui, tout à fait.
Alors, pour finir, justement, là, ça fait 3 ans. Quel bilan vous dressez alors ? Parce que, entre la petite idée avec sa copine sur les bancs de l'école, une entreprise désormais depuis 3 ans qui continue de grandir, quel bilan vous dressez au bout de 3 ans ?
Déjà, on est très très contente avec Amélie d'avoir pu développer notre entreprise. Au début, on s'est lancé en se disant on essaye, on verra si ça marche, ça marche pas. Et en fait, on est tellement contente d'avoir réussi à créer cette communauté, d'avoir des retours toujours plus positifs jour après jour et de développer notre marque. Là, on développe également en boutique, donc on a pas mal de revendeurs un peu partout en France maintenant qui adoptent la marque Les Poulettes. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir que nous, on avait cette idée du sport plaisir, des vêtements originaux.
Il est partagé par beaucoup.
Et qu'il est exactement partagé et ça nous fait vraiment plaisir. Et on compte se développer beaucoup plus et essayer de sensibiliser de plus en plus de femmes en France et pourquoi pas à l'étranger.
À vos valeurs véhiculées par les poulettes fitness. Voilà. Dernière petite question, ça va être très très rapide. Juste la partie la plus compliquée, quand vous avez justement commencé à développer l'entreprise avec Amélie, ça a été quoi ? C'était convaincre les banques ? Ça a été trouver les fabricants ?
Non, ça a été vraiment définitivement de trouver les fabricants, de trouver des fabricants français qui puissent faire ce qu'on souhaitait. Ça a été quand même le plus difficile en termes de budget, parce que forcément, c'est un budget beaucoup plus important que quand on fait ailleurs, mais au final on ne regrette pas une seconde parce que pour nous ça nous touchait vraiment, enfin ça nous ça
non puis le résultat est là, donc ce qui prouve qu'il faut persévérer.
Tout à fait.
Merci beaucoup Roxane Suté, cofondatrice des Poulettes Fitness, cette jolie success story, et vraiment on souhaite longue vie aux poulettes.
Merci beaucoup.
Et bon dimanche Roxane, au revoir.
Bon dimanche, au revoir.
Allez, on va se quitter une poignée de secondes et on se retrouve juste après avec notre France qui innove. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, avec notre France qui innove. Un accessoire très apprécié des sportifs, on en parle tout de suite.
Sud Radio C'est ça la France qui innove.
Et nous sommes en ligne avec Michael Weitz. J'espère que je le prononce bien. Bonjour Michael.
Bonjour Nathalie.
Donc vous êtes le cofondateur de Shepherd, cette entreprise qui a été créée donc fin 2016. Et donc vous avez imaginé des accessoires de téléphone avec une pochette magnétique détachable. Alors ça paraît simple comme ça, mais là on le pose n'importe où, sur le vélo, la trottinette, la moto, autour de son bras, de son poignet. Et ça vous suit partout, notamment pour les sportifs. Alors expliquez-nous ce qu'elle a de particulier, cette pochette qui a été brevetée.
Oui, tout à fait. En fait, on est parti d'un constat qui est très simple. Hein. On a un objet qui est essentiel dans notre quotidien, c'est le téléphone. On s'en sert tout le temps. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui est assez compliqué des fois à utiliser quand on est en mouvement. C'est tout simplement pour répondre à ce problème-là qu'on a imaginé une pochette dans laquelle on vient glisser le téléphone, qui va protéger le téléphone de la pluie, des intempéries, qui va rester tactile. Et en fait, c'est cette pochette qu'on va venir aimanter sur différents types de supports. En fait. Ouais.
Donc le défi technique, ça a été au niveau de l'aimant, c'est ça, de trouver un aimant qui puisse résister au terrain accidenté, au petit chemin en terre, à tout, quoi, aux secousses.
Oui, tout à fait. En fait, il y avait deux défis techniques. Le premier, c'est sur la partie support magnétique, donc vraiment l'aimant, puisque on peut descendre des escaliers, on peut faire du VTT de descente, on peut vraiment ça tient à plus de 280 km/h. Donc c'est très résistant. Ouais, ça c'était la première chose. Et la seconde, c'est la pochette. La pochette, en fait, c'est assez technique à faire puisque ça mélange du textile, du métal, du plastique, du silicone. Et en fait, c'est cette partie-là notamment qu'on a brevetée qui est assez compliqué à produire au final.
Oui, donc c'est la raison pour laquelle donc tous ces produits ont été imaginés donc en France, mais au niveau de la production, malheureusement, il y a une partie du savoir-faire que vous êtes obligé d'aller chercher à l'étranger.
Ouais, tout à fait. Donc quand on a créé la marque, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir des usines, notamment sur la partie textile en France, et on s'est fait gentiment y conduire en disant non, on sait pas faire. Et donc on s'est tourné vers la Chine, et en Chine on a réussi. Alors ça a été un peu compliqué au début, mais il y a aussi une petite différence, c'est que nos amis chinois, ils nous ont dit on sait pas faire, mais on va travailler ça avec vous et on va trouver des solutions pour le faire.
Ouais. Vous avez été accompagné là-bas, donc c'est vrai que dans l'idéal pour vous, ça aurait été de pouvoir justement maintenir toutes les étapes sur le territoire français. Mais alors, c'est quoi cette partie, ce savoir-faire qu'on ne sait pas faire, nous, en France, notamment au niveau des usines textiles ? C'est quoi ? C'est ce mélange de matières ?
Oui, tout à fait. Les usines textiles ont un savoir-faire vraiment sur la partie textile pure et dure. Donc nous, on a une pochette, par exemple, qui est en lycra. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on doit intégrer des pièces métalliques siliconées à l'intérieur de ces parties purement textile, c'est là où ça bloque. Et puis encore plus après, quand il faut le faire avec des volumes assez importants.
Alors justement, en termes de progression des ventes, est-ce que vous avez senti un effet confinement et post-confinement ?
Oui, tout à fait. Alors on a eu deux effets. On a eu l'effet confinement où on a perdu énormément de ventes. et de contrats de distribution, parce qu'on travaille, on fait la majeure partie de notre chiffre d'affaires avec les commerces de proximité, avec les magasins.
Ah oui, bien sûr.
Donc là, on a été très impactés. Et par contre, quand ça a redémarré à partir de mai, juin, juillet, là, ça a considérablement explosé. Nous, voilà, on a fait une très belle année 2020 malgré la situation. Ou sur la partie vélo et moto, on a multiplié nos ventes par 4.
Bah les vélos ont été multipliés par je ne sais combien, mais c'est vrai qu'il y a eu une explosion de ventes de vélos également. Donc
oui,
vous avez accompagné cette progression de vélos.
Oui, c'est exactement ça. Et on travaillait déjà sur le vélo depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que ça a accéléré. Nous, on l'avait déjà ressenti aussi un petit peu auparavant, notamment dans les grandes villes, avec les grèves qu'on avait eues quelques semaines avant, aussi, qui ont poussé l'usage du vélo chez beaucoup de Français.
Alors, c'est quoi la prochaine étape pour Shepherd?
Eh ben, la prochaine étape, on essaie de consolider, de pérenniser la société avec le contexte qui est encore un peu compliqué. Mais surtout le grand chantier de cette année, c'est l'internationalisation de la boîte, puisqu'on commercialise déjà nos produits dans un peu plus de 15 pays en Europe.
Ah oui. Et c'est vrai que ça a été breveté à un niveau mondial, c'est ça? Donc l'idée maintenant,
c'est... Au niveau européen pour le moment, oui.
Dans un premier temps. Donc l'idée, c'est de d'étendre l'entreprise dans les autres pays européens dans un premier temps. Faire connaître Shepherd hors de nos frontières, encore plus, on va dire.
Exactement. Alors on travaille déjà bien, on a déjà pas mal de revendeurs en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne. Voilà, le but, c'est vraiment d'accélérer là-dessus et puis de continuer à proposer des nouveaux produits, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, de continuer d'innover en permanence.
Avec toujours l'idée du téléphone au centre de l'innovation?
Alors, on a encore pas mal d'idées sur le téléphone, effectivement, parce que là, on s'adresse sur des marchés, sur des gros marchés comme le running, la moto, le vélo. Il y a aussi des besoins sur les sports d'hiver, les sports nautiques. Voilà. Après, on a d'autres idées aussi. Là-dessus, on a encore pas mal de ressources, pas mal
tant
de travail
mieux.
Devant nous.
Ça fait plaisir, ce sera l'occasion d'une autre interview.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Michael Weitz. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Shepherd, ce leader des accessoires de téléphone, notamment avec cette pochette magnétique détachable, qui rencontre un franc succès, notamment auprès de tous nos sportifs. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter. C'est parti.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Eh bien, pour vous mettre sur la voie, une petite énigme. Qu'ont en commun les membres du RAID, de la Légion étrangère, de l'aéronaval ou les sauveteurs en mer de la SNSM, à votre avis?
Ils nous protègent, ils nous sauvent.
Oui, c'est vrai.
Ils sont d'élite, en fait, non?
Oui, c'est vrai. Ce sont des groupes d'élite avec une mission extrêmement importante. Ils ont aussi un autre point commun. Ils portent à leur poignet des montres conçues sur mesure. Et le fabricant s'appelle MAT, comme mer, air, terre.
Ah.
Et il s'inscrit pleinement dans la tradition horlogère française. Alors j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur, Fabrice Pouget, dans son atelier parisien. Et il m'a raconté son parcours et la naissance de la marque. Écoutez.
Alors en fait, après une bonne dizaine d'années d'expérience dans l'industrie, je souhaitais investir dans la distribution. Et en fait, mon frère, qui fait partie du RAID, cherchait à fabriquer une montre. Donc je me suis lancé dans le projet au départ pour faire plaisir et me rapprocher de mon frère. Et on a fait une montre en 2005 avec le RAID pour le RAID.
Donc à vocation militaire.
Exactement, en fait, c'est de fabriquer des montres techniques selon le cahier des charges de ces unités, d'avoir un produit qui s'adaptent complètement à leur mission de tous les jours.
Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces montres aujourd'hui, les différents modèles que vous proposez?
Alors, elles sont tout d'abord robustes, lisibles, ce sont des pièces de caractère, mais qui se veulent également discrètes en fonction des personnalités qui vont les porter. Donc, on a livré le RAID en 2005, puis on a eu ensuite les gardes du corps du président Chirac en 2006, et c'est ça qui m'a mis la puce à oreille. Je me suis dit qu'en fait, on avait... la possibilité de rencontrer des professionnels avec des métiers formidables et de leur faire des montres adaptées à leur mission.
On disait tout à l'heure, fabrication française.
Tout à fait, on est très attaché à la fabrication locale. On a un savoir-faire, c'est nous qui avons appris l'horlogerie aux Suisses, c'est peu connu, mais c'est initialement les Français qui ont démarré en horlogerie. Et je suis toujours très attaché de faire travailler des artisans locaux.
On peut en citer quelques-uns?
En fait, pour bien comprendre, pour fabriquer une montre, il faut entre 15 et 20 intervenants. Donc nous sommes maîtres d'œuvre, nous dessinons les montres, faisons des dessins techniques et des prototypages. Et après, on va s'appuyer sur des artisans parisiens, franc-comtois, je ne veux pas tous les citer parce qu'il y a aussi une part de confidentialité dans le... Voilà.
Alors si j'ai bien compris Thibault, donc ces montres elles sont conçues donc, pour les unités d'élite hein, en fonction de leurs besoins, mais est-ce que le commun des mortels, est-ce que nous on peut s'en procurer?
En fait la plupart des modèles sont disponibles à la vente, mais attention, ce sont des éditions très limitées, entre 100 et 300 exemplaires.
Waouh!
Ouais, c'est pas beaucoup. Et j'ai pu en voir quelques-unes dans l'atelier de contrôle. Fabrice était justement en train de faire passer toute une batterie de tests à l'un des derniers modèles de la marque. Il va nous raconter ça, écoutez.
En fait, là, c'est une des phases de contrôle finale. On vient de contrôler la chronométrie du produit. On va contrôler son étanchéité. Donc, en fait, on va envoyer de la pression et on va vérifier que la montre est étanche par la déformation du verre saphir.
On peut décrire cette machine?
En fait, c'est une sorte de, entre guillemets, de cocotte minute qui va garder la pression qu'on va injecter par un compresseur et on va pousser en atmosphère. Donc, un atmosphère, c'est 10 mètres d'étanchéité et on les pousse jusqu'à 20 atmosphères, soit 200 mètres d'étanchéité.
Il y a combien d'étapes de contrôle en tout?
En fait, il y a des contrôles permanents parce qu'on contrôle chaque composant, ensuite on contrôle chaque produit terminé. En fait, c'est du contrôle permanent et la chaîne qualité, c'est un travail à la minute, au jour le jour.
On pourrait décrire une de ces montres, par exemple celle-ci?
En fait, là, on est en train de livrer notre dernière série spéciale que nous fabriquons pour les sauveteurs en mer, qui s'appelle la SNSM Black Edition. C'est un produit qu'on a proposé en souscription. Ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est qu'il y a en plus une dimension sociale puisqu'on reverse 10% de notre chiffre d'affaires à l'association des sauveteurs en mer.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette montre?
Alors c'est un modèle compresseur, elle est très étanche, très lisible. Et on voulait avoir une montre qui soit à la fois à l'aise dans l'eau ou sur un bateau, mais qui puisse être également citadine avec un bracelet plus habillé.
En petit clin d'œil, là, je vois une montre qui s'appelle Eggmaster. Qu'est-ce que c'est?
Alors la Eggmaster, ça c'est un pied de nez. En fait, un ami s'est inscrit à la SAUME, qui est l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Et on a détourné la fonction régate, qui est un compte à rebours 10 minutes, pour en faire un produit, une montre, pour aller se faire cuire un œuf. Et là, une devise qui est de Daniel Prévost, qui est « Le temps passe, les œufs durs ».
Le temps passe, les œufs durs. On salue au passage le grand Daniel Prévost. Merci Thibault de nous avoir fait découvrir cette belle maison horlogère. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve, Thibault également, la semaine prochaine. C'est bon pour vous, Thibault?
Ça marche, à la semaine prochaine.
Même jour, même heure, même radio. D'ici là, portez-vous bien. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr. Bon dimanche à vous.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.